Soyez les bienvenus, c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand l'État appelle le privé à la rescousse pour préparer ses réformes ou gérer la crise sanitaire, les ministères abusent-ils du recours au cabinet de conseil ? Polémique cette semaine devant la commission d'enquête du Sénat. Le gouvernement promet de les utiliser un peu moins, on va vous expliquer. Malgré la flambée des contraintes en moins, dès le 2 février, le télétravail notamment ne sera plus obligatoire. Mais le pass vaccinal entrera lui en vigueur dès lundi, si le Conseil constitutionnel dit oui. Les restaurateurs sont partagés. Dans ce journal aussi, la grande réconciliation Pécresse-Vauquier à droite, une association d'aide aux sans-papiers soupçonnés d'esclavage moderne, et le combat de l'année en MMA, un Français va tenter ce week-end de devenir champion du monde.
Et à 7h45, c'est le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Après le Covid, télétravail, grande démission, comment va évoluer précisément le monde du travail.
France Inter.
Sont-ils toujours utiles, Alexis ? Polémique sur le recours au cabinet de conseil par l'État.
Pas moins de 7 cabinets privés sollicités par le ministère de la Santé pour gérer la crise sanitaire. L'exemple avait marqué l'an dernier, mais ce n'était pas une première, loin de là. Ces contrats sont-ils toujours nécessaires ? L'État ne peut-il pas compter sur ses compétences en interne ? La Cour des comptes a plusieurs fois posé la question. Eh bien, face aux critiques, la ministre de la Fonction publique vient d'annoncer que les dépenses des ministères en conseil privé devront baisser de 15% dès cette année. Delphine Simon, l'idée est d'en finir avec un réflexe devenu un peu automatique.
L'État a dépensé en 2020 plus d'un demi-milliard d'euros pour les conseils de cabinets d'audit extérieurs, certains à des fins parfois obscures, comme le contrat mis à jour par la mission d'enquête du Sénat, la rapporteure Éliane Assassi, perplexe face aux représentants du cabinet McKinsey.
Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, « évaluer les évolutions » du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ?
Accompagner la DTP pour organiser un séminaire pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché du secteur de l'enseignement.
Tollé sur les réseaux sociaux et réaction de la ministre des fonctionnaires. 15% de moins cette année pour des conseils extérieurs. Sceptique, la députée La France Insoumise, Danielle Obono.
Pourquoi 15% et pourquoi pas 30%? Ils sont un peu pris la main dans le pot de confiture. Ce type de recherche, de conseils existe en fait dans le service public. On a désinvesti là-dedans pour offrir un marché en fait aux cabinets de conseil.
À l'avenir, l'administration devra aussi justifier qu'elle n'a pas les compétences en interne. Un premier pas pour Lucie Castets du collectif Nos services publics.
Progressivement, l'administration perd les compétences. Tout recours à un prestataire extérieur doit être fait à l'issue d'une réflexion. Et lorsqu'on le fait, il faut le faire pour être sûr que l'objectif d'intérêt général est servi.
Dans un rapport publié cette semaine, les députés demandent à l'État de mieux encadrer les missions des cabinets privés.
Un dossier signé Delphine Simon, service économie d'Inter.
Il est 7h33 et c'est donc en deux temps que les restrictions anti-Covid seront allégées le mois prochain.
D'abord le 2 février, la fin du masque obligatoire en extérieur, de toutes les jauges et du télétravail imposé. Et deux semaines plus tard, le 16, réouverture des discothèques, concerts debout et consommation réautorisée dans les trains et les cinémas. Satisfaction ce matin des gérants de boîtes de nuit. Les gens vont reprendre goût à la vie, réagit l'UMI, l'un des syndicats du secteur. Pourtant, sur le plan sanitaire, les contaminations flambent toujours, 425 000 encore hier. Et pour le conseil scientifique, les effets de cette cinquième vague se feront sentir jusqu'à mi-mars au moins à l'hôpital, même si la tension commence à baisser en réanimation. D'où le scepticisme, ce matin, de Gilles Pialoux, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris.
La cohérence, je pense que c'est une cohérence avec ce que les Français veulent entendre. C'est-à-dire que je pense que les Français ne voient plus les chiffres qui défilent sur les chaînes d'info continue quand le ministre parle. Hier, c'était 425 183 cas et 251 décès. On voit plus ces chiffres-là. C'est une façon de donner des perspectives aux Français. Et en ce sens, il y a une cohérence, oui. S'agissant d'Omicron, qui est quand même avec des chiffres absolument faramineux, on doit regarder aussi la circulation virale. Une fois de plus, c'est l'angle mort de l'école. C'est des mesures qui sont annoncées sans seuil de levée des contraintes, surtout, mais sans seuil de reprise, c'est-à-dire que de réactivité si les choses repartaient avec ce variant ou un autre variant. Et au niveau scolaire, c'est quand même hallucinant, puisque on a vu que la rentrée des dernières vacances de Noël montre que dans la tranche 0-9 ans, on a une augmentation faramineuse avec des chiffres d'incidence qui sont au-delà de 4 000 et de 5 000, même pour les 10-19 ans. Là, je pense que c'est un peu le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'on ouvre des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Gilles Gilles Pialoux, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, interrogé ce matin sur France Info. Des restrictions bientôt levées, mais pas toutes, car parallèlement, le pass vaccinal doit entrer en vigueur dès lundi. Enfin, si le Conseil constitutionnel donne son feu vert, sa décision est attendue dans la journée. Pour les plus de 16 ans, on le rappelle, un test négatif ne suffira plus pour aller au restaurant, au spectacle ou prendre un TGV. Il faudra être vacciné. L'hôpital n'est pas concerné. Une perspective redoutée par certains restaurateurs rencontrés par Thomas Giraudeau.
Au Mesturé, une brasserie parisienne, Marie-Noël, une des serveuses, s'inquiète du discours de certains clients sur le pass vaccinal.
Il y a des clients qui m'ont dit, avant que le pass vaccinal se mette en place, on vient chez vous une dernière fois. Un comme ça qui nous appelle, dans combien de restaurants ? Combien vont réagir comme ça ?
Elle parle de coup de grâce pour le restaurant. Son patron Alain Fontaine est un peu plus mesuré. Oui, il va perdre quelques clients, mais le Premier ministre l'a assuré hier soir. Le pass vaccinal pourra être suspendu si la situation s'améliore dans les hôpitaux. Le restaurant d'Alain Fontaine souffre surtout d'un contexte anxiogène.
Déjà avec la poussée du variant Omicron, la mise en place du télétravail, le manque de touristes et l'épidémie évidemment, on a déjà perdu 40% de clients. Donc le pass vaccinal ne va pas nous aider.
Confirmation du côté de l'UMI, l'Union des restaurateurs estime que les établissements dans les grandes villes ont perdu entre un tiers et la moitié de leurs clients ce mois-ci. Dans ce contexte, le pass vaccinal ne fera pas plus de mal à Valérie Saslovicki, propriétaire du Patio Opéra à Paris. Elle est sûre que sa clientèle est vaccinée.
Aucun souci, puisque en fait on vient finalement rassurer nos clients et nos salariés. Hein. C'est un renforcement, à mon avis, qui est tout à fait louable et cohérent en fait.
Et la restauratrice veut voir dans les annonces de Jean Castex hier soir un espoir de sortie de crise, même si elle regrette la prolongation pour 15 jours du télétravail obligatoire.
Un reportage Thomas Giraudeau. Ailleurs en Europe, les règles s'assouplissent aussi en Espagne. La Catalogne lève aujourd'hui le couvre-feu en vigueur depuis un mois, mais maintient la jauge de 50% dans les bars et restaurants et la fermeture des boîtes de nuit. Il avait un peu disparu de la scène politique nationale. Laurent Wauquiez est de retour aujourd'hui pour soutenir Valérie Pécresse. La candidate de la droite à la présidentielle est attendue ce soir chez lui, au Puy-en-Velay, pour un meeting. Ou comment mettre en scène une réconciliation avec la figure de l'aile droite du parti, Anne Souhaitement.
Sortir la bonne cartouche au bon moment. Pas de hasard de calendrier. S'afficher aujourd'hui avec Laurent Wauquiez permettrait à Valérie Pécresse de casser le storytelling d'Éric Zemmour, qui annonce depuis quelques jours un ralliement toutes les 24 heures. Mais l'affaire n'est pas si simple, car si Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez ont quelques points communs, l'amour pour les vestes rouges, les deux sont ennemis jurés depuis des années. Méthodiquement, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donc séché tous les grands rendez-vous publics depuis le début de la campagne Pécresse, conférences de presse, meetings, déplacements thématiques. Laurent n'a simplement pas été sollicité, tant par son entourage. Mais alors pourquoi changer de braquet aujourd'hui ? D'abord parce que Valérie Pécresse a compris. Elle se déplace chez lui, c'est ce qu'il voulait, décrypte un cadre. Ensuite parce que Laurent Wauquiez n'a plus le choix, explique un élu de sa région. Miser sur une défaite de Valérie Pécresse ne le mettra pas plus en condition de revenir pour aller conquérir l'Élysée. Pire, estime un député, Laurent doit participer à cette campagne de reconquête, sinon il deviendra le vilain petit canard de la droite.
Anne Souhaitement, décision attendue cet après-midi au procès des sondages de l'Élysée. Ces dizaines d'enquêtes d'opinion commandées sans appel d'offres par la présidence pendant le quinquennat Sarkozy. 5 anciens proches de l'ex-chef de l'État doivent être fixés sur leur sort. Parmi eux, Claude Guéant, incarcéré depuis mi-décembre pour une autre condamnation. Dans ce dossier des sondages, l'accusation a requis contre lui 1 an de prison ferme et 10 000 euros d'amende. La structure d'aide aux sans-papiers, aux sans-abri, cachait-elle un système d'esclavage moderne ? Le patron et 2 bénévoles d'une association parisienne comparaissent cet après-midi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé et traite des êtres humains. Face à eux, pas moins de 52 plaignants. Cette association proposait en fait aux bénéficiaires de leur servir d'adresse pour recevoir leur courrier. Mais en échange de ce service de domiciliation, on aurait profité de leur vulnérabilité. Ariane Grissel nous raconte.
Ces femmes et ces hommes en situation irrégulière arrivent à l'association Vie de Paris par le bouche à oreille. Ils signent ensuite une convention de bénévolat dans laquelle ils s'engagent à consacrer du temps à la structure contre une gratification, comme cette jeune femme à temps plein pour un paiement de quelques centaines d'euros.
Entre 500 et 600 par mois. On travaille du lundi à samedi, de 8h45 à 20h, 21h, ça dépend.
Parmi les missions, la vente de formation. Chiffre d'affaires estimé par l'inspection du travail, environ 500 000 euros en 2018. Ce plaignant dit bien avoir tenté de s'en aller.
Donc il m'a dit que tu n'as pas de papier. Quand tu vas aller chercher du travail, ils vont te demander les papiers si tu as l'autorisation de travail. C'est là que j'ai resté la bouche fermée, j'ai rien dit.
En toile de fond, toujours, l'espoir d'une régularisation Aline Chenu est l'une des avocates des parties civiles.
À chaque fois qu'il y en a un qui dit « bon ben maintenant ça suffit, je veux partir », il les rattrape par la manche en leur disant « tu verras, je vais te donner un meilleur poste, te donner une meilleure gratification et puis tu vas voir ton dossier, tu vas pouvoir être régularisé, je vais t'aider ».
Le dirigeant de l'association conteste lui toute exploitation. Il explique les journées à rallonge par les cours du soir suivies par les plaignants, dit avoir voulu aider en versant de l'argent aux bénévoles et accuse des rivaux d'avoir promis des papiers à ceux qui porteraient plainte contre lui.
À l'étranger, des semaines de menaces de part et d'autre, une tension croissante, mais une nouvelle tentative de négociation aujourd'hui sur l'Ukraine. Peut-être la dernière, les chefs des diplomaties américaines et russes se retrouvent à Genève, face à face très attendue entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov, alors que les États-Unis se veulent de plus en plus alarmistes sur la possibilité d'une invasion russe de l'Ukraine.
Il est 7h40, les adeptes de MMA, Alexis, ont bloqué leur week-end depuis longtemps.
Mais oui, car dimanche, il y a un combat événement en Californie. Un duel au sommet pour ses arts martiaux mixtes. Le français Cyril Gane va tenter de ravir au Camerounais Francis Ngannou la ceinture mondiale des poids lourds. En Afrique d'ailleurs, la discipline fait de plus en plus d'adeptes, notamment dans les pays où la lutte traditionnelle était déjà implantée, comme au Sénégal. C'est le reportage à Dakar de Théa Olivier.
Sur le tapis rouge et bleu d'une salle de sport de Dakar, une dizaine de combattants répètent en boucle une clé de bras au sol. Parmi eux, Eladj Malik Dieng, étudiant de 20 ans, il espère faire carrière dans le MMA.
Tout rêve d'un champion, c'est d'avoir un jour la ceinture de l'UFC. Comme Cyril Gane, Francis Ngannou, qui est un Camerounais, ils nous donnent de l'espoir. Et ils font notre fierté aussi. Font la fierté de l'Afrique.
Suite à la suspension des compétitions par le ministère des Sports, Pape Kane, président de l'association MMA Sénégal, regrette le manque de combats organisés dans le pays. Pourtant, l'engouement est fort chez les jeunes.
Aujourd'hui, le MMA, c'est le sport de combat le plus médiatisé au monde. Bien sûr, il y a l'aspect pécunier qui donne des rêves. Néanmoins, avant de toucher à des millions de dollars ou bien millions d'euros, il faut d'abord maîtriser la technique.
Mais la plupart des combattants viennent de la lutte traditionnelle et doivent donc changer de technique, explique Pape Kane, qui est aussi entraîneur.
Les combattants sénégalais, on va se dire, c'est des lutteurs. Ils savent que prendre, projeter au sol. Maintenant, arriver au sol, ils ne savent plus rien faire. On va essayer de corriger ça, comment on doit répondre. Comment on doit attaquer, comment faire des coups de genoux, des coups de coude, ça on ne le voit pas dans la lutte sénégalaise.
Pape Kane espère créer une fédération pour fabriquer les champions africains de demain. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
Et le combat de Cyril Gane est programmé à partir de 4h du matin, heure française, dimanche. Ouais, il faut vraiment être fan.
Oui, il n'y a pas d'heure pour les braves. Merci Alexis Morel, l'édito politique à suivre.